Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Ouais! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes, bienvenue pour notre 75e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire découvrir les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, notre invité est un joueur toujours en activité. Il vient d'ailleurs de claquer un magnifique Open d'Australie, 22e joueur mondial à son meilleur en 2019. Il a la particularité de ne quasiment jamais casser son cordage. Il s'agit d'Adrian Manarino. On parle avec Adrian de la confiance en soi, vaste sujet pour notre invité qui ne regarde pas ses tableaux, persuadé que 95% des mecs sont plus forts que lui. Rare gaucher du top 100, on essaye de comprendre pourquoi ce sportif dans l'âme a réussi à accéder au circuit et à faire une carrière honorable là où son frère ou sa sœur, tous les deux anciens négates, ont échoué. Mana nous raconte ce que ça fait de jouer Roger, on parle aussi argent, filles sur le circuit, on passe un max de sujets au crible, vous le verrez, Adrian n'est absolument pas langue de bois. C'est un plaisir à suivre. Vous avez un bonus à récupérer dans les notes de l'épisode. Je vous ai regroupé les 10 clés d'Adrian Manarino pour gagner vos matchs en jouant relâché sur un court de tennis. C'est des méthodes qu'Adrian utilise à chacun de ses propres matchs. C'est le premier lien dans la description et je suis sûr que ça va libérer votre jeu. Deuxième chose avant de laisser place à l'épisode, t'as accès à la 10e masterclass avec notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian, qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial. On t'a concocté un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX qui permet de te renforcer facilement et rapidement. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. Tu peux l'emmener absolument partout. C'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono de mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et donc de se blesser en bossant toutes les chaînes du corps, en les gainant, c'est juste incroyable. Paul Quétin nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers, adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, c'est tout bénef. Au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune d'ailleurs, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer quelques bonnes premières. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la 10e et les 9 précédentes sont listées en bas de la page en description. Deuxième lien donc dans la description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as donc plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement cette année. Allez, c'est parti pour notre 75e épisode avec le détendu Adrian Manarino. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ok, bon bah merci beaucoup d'avoir accepté déjà, m'avoir relancé, même si je t'ai couru après depuis 4 ans non-stop.
Non, il n'y a pas de problème. J'avais pas mal de trucs chiants à faire là en arrivant,
ouais.
Mais là ça commence à aller un petit peu mieux, du coup j'ai un peu de temps devant moi.
Bon bah tant mieux, impeccable. J'ai lancé l'enregistrement, j'ai une petite intro sur toi, une présentation. T'hésites pas à me dire s'il y a des trucs qui sont fausses.
Ça marche.
Et puis après j'ai une trame de questions. Quoi. Alors Adrian, t'es né le 29 juin 88 en région parisienne, dans une famille de 5 frères et sœurs. Tu fais 1,80 pour 80 kilos. C'est toujours le cas? T'as pas grossi?
Non, je fais 68-69 kilos.
Ah ouais, c'est... putain, mais l'ATP, il s'est passé quoi là?
Ah, j'ai grossi d'un coup là. Non, je sais pas ce qu'il leur a pris là. Ils ont changé ça la dernière fois. C'est pas vrai.
C'est ce que je pensais. Je me disais, putain, je te voyais pas si massif. Et bref, voilà. Il y a quand même une différence
Je suis très, très costaud quand même.
T'as commencé le tennis à 5 ans. Ton frère Morgan, de 3 ans, ton aîné, a d'ailleurs eu quelques points ATP. Et tu as une sœur, Iris, qui a été négate, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Qui a été, si moi je me trompe pas non plus, moins 4.
D'accord. Tu es joueur de tennis pro depuis 2004. Ça fait 16 saisons déjà à parcourir le monde. Tu es gaucher, revers à deux mains. Tu as été 22e joueur mondial à ton meilleur en 2019, l'année où tu as gagné ton seul titre jusqu'à maintenant sur le gazon hollandais de Zertogenbosch. Tu as atteint 9 autres finales. Tu es hyper régulier, puisque ça fait 10 saisons que tu es installé dans le top 60. Tu as fait 3 fois 8e à Wim en simple et une demi à l'Open d'Australie avec Lucas Pouille en double en 2016. Tu as eu 2 sélections en Coupe Davis en 2018, dont une victoire en 5-7 contre Robbie Naz au premier tour contre les Pays-Bas, en ayant été appelé la veille, il me semble, hein, c'est bien ça?
Un peu ça, ouais.
Ouais, tu pourras nous en parler un peu plus tout à l'heure. Ta plus grosse victoire en termes de classement est contre le numéro 5 mondial de l'époque, le Croate Marin Cilic. Fait assez rare pour être souligné, tu fais partie des joueurs sur le circuit qui tendent leur raquette le plus bas. Toi, tu es entre 15,5 et 18, quand on sait que la moyenne est plus aux alentours de 24-25. Tes autres collègues du circuit sont Jack Sock qui tend à 12 et l'autre Mikhaïl Kukushkin à 11. Tu dis que tu as l'impression de perdre de la force d'année en année et qu'à un demi-kilo de tension près, ta balle pourrait ne plus passer le filet. Ce qui paraît assez étonnant pour un des meilleurs joueurs du monde, finalement. Il paraît
Non,
aussi.
en ce moment, j'ai un peu baissé là. Cette année, j'étais entre 10,5 et 13.
Ah oui, ok. Donc là, ouais,
Ouais.
t'es clairement un des plus bas, très certainement, du circuit. Et c'est en lien à ta
Je
perte de force ou c'est quoi l'idée?
sais pas. Je sais pas si ça vient de. Je pense qu'on s'habitue à tout. Du coup, voilà, moi, d'année en année, vu que je casse jamais mes cordages, voilà, ça m'arrive de jouer avec la même raquette pendant 10-15 jours.
Ouais.
Et c'est vrai qu'au niveau de la tension, j'ai pas l'impression de perdre énormément en contrôle. Du coup, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu moins forcé aussi au niveau du bras. Par exemple, j'ai jamais de problème au coude, à l'épaule, et ce genre de trucs. Donc, je me dis que si j'arrive à concilier un peu, voilà, le fait de faire peu d'efforts finalement au niveau du haut du corps, tout en perdant le minimum de contrôle, bah, j'essaie de continuer comme ça, quoi.
C'est ton équipementier, du coup, qui est content. Il t'envoie moins de garniture de cordage, non?
Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que je casse. En période d'entraînement, je casse tous les 10-15 jours parce que. En période d'entraînement, tu frappes énormément de balles, mais en match, je peux jouer 4-5 matchs sans casser.
Et tu dis que c'est assez incroyable parce que les Rafa et compagnie cassent quoi, une fois par set, non? Un truc comme ça?
Ouais, après, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. J'ai pas l'impression de jouer si à plat que ça. En tout cas, en coup droit au service, voilà, je mets un peu d'effet. Mais non, c'est vrai que. Je peux tenir assez longtemps avec le même cordage.
Et tu dis qu'on s'habitue à tout, ça veut dire que tu pourrais t'habituer à jouer à 30?
C'est assez étonnant, mais dans l'autre sens, je n'arrive pas à m'habituer.
D'accord.
C'est-à-dire que dès que j'essaie de remonter un petit peu, là, j'ai vraiment l'impression de. Alors, en plus, j'exagère assez souvent, mais j'ai l'impression de jouer avec une brique, alors que voilà, je suis seulement à 13,5, 14 kilos.
Ouais.
Donc, la dernière fois, j'ai tendu à 13 avec un cordeur qui apparemment tendait assez fort et du coup, j'arrivais plus du tout à jouer, quoi.
Donc là, tu lui as demandé 11.
Ouais, c'est un peu ça. Je descends, ouais, je peux descendre bas. Je crois que cette année, au plus bas, je suis descendu à 9,5 pendant Roland-Garros. Sur terre battue, à l'extérieur, avec un temps qui était assez froid. J'avais
Ouais.
vraiment l'impression d'être impuissant. Du coup, j'essayais de trouver à gauche, à droite des petites options pour avoir un jeu un petit peu plus percutant. Voilà, j'ai été obligé de baisser au maximum. Après, en dessous de 9,5, là, ça commence à devenir n'importe quoi au retour. Surtout, Voilà, si l'autre sert assez fort, tu peux ouais. vraiment pas contrôler la mais longueur.
Clairement, tu peux pousser avec ta main comme ça le...
Non, ça c'est une légende.
Ah bon?
Non, mais même à 12, 13, des fois, j'ai des joueurs qui aiment bien prendre ma raquette pour essayer, justement.
Ouais.
Et bon, ils sentent vraiment que c'est pas très tendu, mais si tu leur avais demandé leur avis, ils auraient dit que c'était plutôt 17, 18, 19. Quoi.
D'accord. Et donc, tu n'utilises pas beaucoup de garniture de cordage, mais j'ai cru voir sur une vidéo que tu avais 20 paires de chaussures dans ta chambre d'hôtel. Là, tu les flingues, les paires de chaussures, ou comment ça se passe?
Non, ça, c'est les équipementiers. Généralement, sur les tournois en grand chelem, comme ça, ils t'envoient une grosse cargaison.
Ouais.
Par exemple, pendant l'US Open, j'ai reçu toutes les chaussures pour l'US Open, la saison sur terre battue et la saison indoor.
Okay.
Du coup, ça fait des gros cartons à chaque fois.
Ouais.
Et pas mal de bagages à ramener aussi. Mais bon, c'est comme ça, ça s'organise. Et puis voilà, en cours de saison, si j'ai des petits besoins, j'envoie un message et ils font une livraison assez rapidement à chaque fois. C'est assez pratique.
T'en passes une tous les combien? Ça te fait quoi, 3 semaines, non? En moyenne, 2 semaines?
Je sais pas, une paire de chaussures, ça dépend des surfaces. Sur les surfaces indoor, par exemple, qui sont super abrasives, si je joue 4-5 matchs, la paire de chaussures elle est tout de suite flinguée, quoi.
Ouais.
Après, ouais, j'ai pas le service Disney. Si je veux gagner des matchs, je suis obligé de bosser un petit peu, de courir à gauche, à droite. Du coup, voilà. Les cordages, je les use pas beaucoup. Par contre, les chaussures, je suis obligé d'user la semelle un petit peu, quoi.
Ça fume! Bon, alors, pour terminer ta présentation, il paraît que tu ne regardes jamais tes tableaux de tournoi à l'avance pour rester relâché et préparer tes matchs un peu plus à l'instinct. Tu es réputé pour ne pas être le plus grand des maniaques, justement, en termes de rangement dans tes chambres d'hôtel. Tu es fan du PSG, de Jean Dujardin, Jamel Debbouze et Thomas Nguijol. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Adrien?
Ça, c'est les présentations ATP qui datent de quand j'avais 18 ans.
Et alors, Jean Dujardin, tu l'as mis au placard. On ne peut plus le voir.
Jean Dujardin, ouais, il est un peu moins présent ces derniers temps.
C'est vrai.
Mais non, c'est vrai. Moi, j'adore le cinéma, j'adore l'humour, même si ça ne se voit pas tout le temps.
Okay.
Mais non, je regarde pas mal de trucs. Voilà, j'essaie de passer le temps en tournoi comme la plupart des fois en regardant des films et tout ça. Du coup, voilà. Je suis très amateur de films français, comédies françaises et ce genre de trucs.
T'es pas trop du genre à bouquiner, t'es plus Netflix?
Non, je sais pas lire.
Ah bon?
Non, ouais, ça m'arrive de lire un bouquin une fois de temps en temps, mais souvent je pars, je commence l'année avec un départ en Australie avec plein de bonnes intentions, je prends un ou deux livres.
Ouais.
Et généralement, ça s'arrête à l'escale entre Dubaï et Melbourne.
Ah oui, d'accord, oui, on n'est pas dedans sur la lecture. Bon, pour commencer tambour battant, Adrien, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour autant faire chier tes adversaires?
Je pense que mes principales qualités, ça reste quelque part d'avoir un jeu un peu différent des autres joueurs. C'est pas forcément ce à quoi les autres ont l'habitude d'avoir en phase 2. J'ai une balle qui reste assez basse, qui est pas très liftée. Je suis gaucher. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tant que ça dans les 100 premiers mondiaux. Du coup, voilà, les joueurs ont des schémas de jeu un peu prédéfinis contre des droitiers. Ils sont obligés de s'ajuster un petit peu quand ils jouent des gauchers. Et puis après, voilà, je sais pas si je les fais tant chier que ça, mais ouais, j'essaie de courir, j'essaie de, comme dit Gilles Simon souvent, de rentrer dans leur tête, de plutôt m'adapter aux joueurs en face, de voir un petit peu ses faiblesses pour essayer de m'ajuster et de, voilà, et essayer de voilà, foncer à fond dans les petites portes qui s'ouvrent. Je me concentre là-dessus. Je crois que j'ai un jeu qui est assez, qui peut être très lent, mais qui est en variation aussi. Ça m'arrive des fois, au contraire, d'essayer de prendre la balle tôt et de prendre du temps à mon adversaire. Du coup, c'est un jeu, je ne saurais pas vraiment comment le définir, mais ouais, qui est sans doute un petit peu atypique.
Et donc tout ça, c'est de l'instinct ou enfin, quand tu rentres sur le cours, ta tactique, elle se met en place avec l'humeur du jour, la force de ton adversaire du jour. Tu te dis là, je vais percuter parce que je le sens comme ça, ou là, je vais jouer plus lent parce que je sens que ça va le faire chier. Enfin, tout ça, c'est vraiment à l'instinct, au feeling.
Ouais, je pense que c'est justement quand je joue à l'instinct et que je suis à relâcher que j'arrive à jouer mon meilleur tennis. Du coup, j'ai toujours une petite tactique. On met ça en place avec mon coach, voilà, en 2 minutes.
Ok.
Et puis après, bah, c'est toujours pareil. Je pars là-dessus et puis si je sens que ça va pas trop, voilà, j'essaie de m'ajuster une fois que je suis sur court. Et voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui joue en contre, un petit peu à l'instinct comme ça, et j'ai besoin de sentir le jeu. Sinon, justement, quand je suis un petit peu tendu, un petit peu sur la défensive, là, je deviens complètement inoffensif. Du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à être vraiment relâché, à prendre du plaisir. C'est vraiment ça, parce que si tu commences à bien te sentir sur le court, que tu sens bien tes coups, là, il y a forcément plein d'options qui s'ouvrent à toi. Voilà, je peux à ce moment-là essayer voilà, monter à la volée, ou plutôt de crapoter, rester 2 mètres derrière, ou justement essayer de varier. Faut réussir à trouver ces petites sensations, et après, je peux mettre tout en place.
Et les 2 minutes de briefing, de tactique que vous mettez en place, c'est à quel moment, c'est quoi votre rituel, votre manière de fonctionner?
Un très rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify et un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait vraiment chaud au cœur de te lire. Récupère maintenant aussi les 10 clés d'Adrian Manarino pour gagner tes matchs en jouant relâché. C'est le premier lien dans la description de l'épisode. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et physiquement, surtout cette semaine, tu as accès à notre 10e masterclass. C'est un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. On te livre un programme clé en main. Il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. Ce sont des exercices simples avec le poids du corps et une posture parfaite pour tenir les blessures éloignées. Ce nouveau cours, comme tous les autres d'ailleurs, est garanti satisfait ou remboursé à vie et il est en lien dans la description.
Souvent, c'est ces 2 minutes où il se passe plus rien sous la ceinture, quoi. Je sens plus mes jambes. C'est le moment où je découvre contre qui je joue.
Ok.
Souvent, je retarde au maximum à ce moment-là, parce que j'appréhende toujours un petit peu. J'ai souvent l'impression que tous les joueurs sont 15 fois meilleurs que moi. Du coup, le fait de savoir mon adversaire à l'avance, pour moi, dès que je vois le nom de l'adversaire, je me dis putain, merde, c'est foutu. Du coup, j'essaie de retarder ce moment-là au maximum. Et puis, une fois que je rentre sur le court, que je fais mon échauffement physique, voilà, je prends confiance en moi. Et le petit briefing, finalement, avec mon entraîneur, ça change pas grand-chose, parce que j'essaie juste d'avoir une idée générale. Et puis, lui, il faut juste qu'il me dise, ouais, je pense que c'est ça. Il faut juste qu'il me conforte dans mon idée. Et puis après, je peux y aller, je fonce sur le court. Mais c'est vrai que j'attends, généralement, ça dépend à quelle heure je joue, mais on va dire 1 heure et demie, 2 heures avant le match.
Ah ouais, c'est vraiment last minute. Tu viens de parler de confiance en soi, c'est une notion qui est assez abstraite. Qu'est-ce qui fait que quand tu démarres ton échauffement physique, tu prends confiance?
Ouais, c'est vrai que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut discuter pendant des heures.
Mais pour
Moi,
toi, comment ça opère,
je
quoi?
sais que le fait de me sentir bien physiquement, le fait de sentir que je peux courir à la fois rapidement et pendant longtemps, je sais que ça me laisse respirer. Si je perds le premier set et que je sais que je peux tenir 3-4 heures, finalement, je garde vachement de confiance, je garde mon calme. Et puis après, bon, ça se passe bien ou ça se passe mal, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui me permet de garder mon calme. Alors que si le match, si je me sens un petit peu court physiquement, que le match commence mal, je perds le premier set et que je sais que j'ai pas forcément trois sets dans les jambes, là je commence à m'énerver, je commence à paniquer. Alors que voilà, pour moi ça passe vraiment par le physique et du coup le fait de faire un gros échauffement, de sentir les jambes qui brûlent, mais sentir que je vais quand même pouvoir aller à la bagarre, ça me rassure vachement. Du coup ouais, j'essaie de souvent faire ça.
Pareil, tu disais quand on commence à être relâché, à bien sentir ses coups, ben là on peut se faire confiance, on peut être créatif. C'est quoi ta boîte secrète à toi pour trouver ce relâchement, dans la mesure où on sait que le tennis rend fou? Comment tu fais?
Bon, j'ai une ou deux clés dans mon jeu. Je sais très bien que la première balle est super importante. Du coup, j'ai un service, comme on le disait, de gaucher qui est assez chiant à retourner. Du coup, quand je rentre sur le terrain et que je me sens bien, souvent tu prends des repères par rapport à la salle. Il n'y a jamais deux cours qui sont identiques pendant la saison. Et c'est vrai que selon le recul, l'espace sur les côtés, il y a toujours des petites marques qu'on a entre joueurs. Et il y a certains cours, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens super bien dessus. Tu as l'impression que tu peux venir tous les jours, tu serviras tous les jours super bien. Il y a des cours où tu es complètement perdu, quoi. Il y avait, par exemple, il y avait ce cours, il y avait le grand stand à Miami à l'époque où ça jouait à Key Biscayne. Tu avais l'impression que le cours était comme ça, quoi. Du coup, le filet, c'était un filet de volley, quoi. C'était une tente, le cours. Du coup, voilà, tu rentrais sur le cours, tu faisais trois services, tu chopais le milieu du filet, tu savais que tu n'allais pas mettre une première balle du match. Et non, moi, le fait de bien servir, je sais que voilà, ça va me permettre de gagner beaucoup de points gratuitement, de éventuellement gagner mes jeux de service un peu plus avec un ou deux points gratuits et après pouvoir prendre des risques sur le retour. Ouais, j'aime bien ça, quelque part faire un petit peu paniquer mon adversaire en prenant beaucoup de risques sur son service. Et ça, le fait de se sentir bien et de pouvoir bien retourner, pour moi, ça passe par le fait de bien servir. Parce que les jours où tu ne mets pas une première balle, où tu t'arraches sur chaque jeu de service pour t'en sortir, là, tu arrives au jeu de retour, tu te dis, là, il faut absolument que je break parce que sinon, sur mon service, ça va être encore une galère, quoi.
Ouais.
Alors que finalement, quand tu gagnes tes jeux de service un peu plus facilement, tu arrives sur le jeu de retour, tu te dis, bon, bah là, je peux tenter parce que quoi qu'il arrive, sur mon service, je suis tranquille. Et dans ce cas-là, forcément, ça relâche énormément dans la tête. Et après, tu peux essayer justement de rentrer dans celle de ton adversaire, quoi.
Contre un Joko qui retourne grave, ça doit être hyper tranquillisant d'être sur ses jeux de service.
Contre Joko, bah, le truc, c'est que quand tu joues contre Joko, tu rentres sur le terrain, tu sais que t'as 95, voire plus, de pourcentage de perte.
Ouais.
Du coup, tu rentres, quoi qu'il arrive, un petit peu relâché. Et tu te dis, voilà, ma seule chance de gagner, c'est de toute façon de tout tenter. Et si je perds le match, de toute façon, c'est quasi normal.
Ouais.
Du coup, un mec comme Joko, c'est un peu différent. Les tout meilleurs, de toute façon, c'est des matchs un petit peu différents parce que de toute façon, tu rentres sur le terrain avec quasiment rien à perdre et tu sais que voilà, tu as uniquement des choses à tenter sur le court. Du coup, ouais, quoi qu'il arrive, tu es tout le temps un petit peu détendu. Le seul truc qui peut te faire paniquer, c'est éventuellement de prendre une rousse sur un terrain complètement, sur un central complètement plein et d'avoir l'air ridicule. Mais finalement, ça arrive rarement, ça.
Tu disais que pour bien servir, tu prenais tes repères. Et pour un joueur, tu vois, un joueur de club qui nous écoute, qui est sur un court en terre-balle, avec des limitations, des filets et puis des pubs sur le bâtiment, sur les murs, ce serait quoi, toi, tes repères pour placer tes jalons et mieux servir finalement? Enfin, comment l'auditeur qui nous écoute peut s'identifier à ça et placer ses propres repères?
Je pense qu'il faut vraiment essayer de maîtriser au maximum tout ce qui est maîtrisable.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, vachement se concentrer sur le lancer de balle.
Ok.
Voilà, être assez précis là-dessus. Et puis après, c'est un rythme avec les jambes, c'est du timing, c'est difficile à conseiller, mais en tout cas, moi, j'essaie d'avoir le moins d'artefacts qui viennent me gêner. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes, j'essaie de prendre très peu d'élan.
Okay.
Parce que je me dis, quand tu prends beaucoup d'élan, le jour où tu te sens bien, que tu as du gaz et que tu as un bon timing, voilà, tu as l'impression de sauter à 2 mètres de haut et que tout est facile. Mais le jour où tu as les jambes un peu lourdes, où t'as un timing et un relâchement qui est moins bon, si tu prends un grand écart d'appui et que tu y vas à l'élan, ça devient compliqué. Du coup, moi, j'essaie vachement de regrouper mes deux pieds. Voilà, juste de me dire, finalement, tu lances la balle, tu essaies de lancer calmement et de manière relâchée. Parce que quand tu as le bras qui tient la balle, qui fait 4 kilos, et que tu lances 2 mètres devant toi ou que tu lances 2 mètres derrière parce que tu sais plus comment tu tiens la balle, là, c'est compliqué. Je pense que si tu gardes pas mal de relâchement dans le bras qui tient la balle, tu lances, t'as un lancer assez régulier et qu'en fait, finalement, tu penses juste à lancer et taper la balle, c'est ce qu'il y a de plus facile, quoi.
Et tu parles de jours où tu as du gaz et tu peux sauter à 2 mètres de haut et jours où tu as moins les jambes et le bras lourd. Tu dirais que la proportion sur une de tes saisons à toi, de jours où tu te sens très bien contre versus les jours où putain tu as les jambes lourdes, c'est quel pourcentage à peu près pour chaque compartiment?
Ça dépend. Il y a les matchs où tu es tendu. Il y a des matchs, tu sais pas pourquoi, tu as l'impression avant de rentrer sur le court que tout va bien. Et puis, je sais pas, tu rentres sur le court, tu as deux bouts de bois à la place des jambes et tu n'arrives pas à bouger. Je sais pas, il y a un stress qui intervient au début de match. Des fois, tu sais pas pourquoi. Et puis après, il y a l'état de fatigue aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a des fois, les deux, trois premiers tours peut-être où tu te sens vachement bien. Et puis après, si tu as un match dur, si tu es dans des conditions un peu extrêmes au niveau du climat, tu peux vite te retrouver fatigué.
Ouais.
Et là, dans ce cas-là, des fois, t'as la confiance, le fait de gagner quelques matchs qui rentre en compte. Et du coup, t'es un petit peu plus relâché. Et dans ce cas-là, tu sers mieux alors que finalement, physiquement, t'es un peu moins bien et qu'au niveau des jambes, t'es pas terrible. Mais moi, je dirais qu'au service, il y a peut-être un petit peu plus de la moitié des matchs où j'ai l'impression d'être vraiment bien en jambes et de pouvoir aller chercher la balle assez haut pendant tout un match. Mais tous les matchs sont différents, comme je disais, avec l'état de fatigue, l'état émotionnel, c'est jamais pareil. C'est ça qui est quelque part marrant dans ce sport, c'est que tu peux jamais prédire à l'avance ce qui va se passer. T'as beau connaître super bien ton adversaire, il n'y a jamais deux matchs qui sont identiques. Du coup, voilà, c'est toujours à la fois stressant, mais à la fois sympa, quoi. Mmh.
Ça, c'est marrant. Aujourd'hui, je sens rien. Ça va encore être une partie de plaisir.
Je sens rien. Bah, vaut mieux avoir des jambes ce jour-là. Parce que c'est ce que je me dis. Hein. Moi c'est un peu ma marque de fabrique. Je sais que il y a des jours où le coup droit, il a décidé de rester à l'hôtel. Du coup, je sais que j'ai deux jambes.
Ouais.
Je vais pouvoir courir partout. Je vais à la rigueur me mettre un peu derrière et puis prendre moins de risques. Mais j'ai toujours cette petite issue de secours. Me dire que même si les sensations sont pas là, je vais quand même essayer de faire bosser l'adversaire au maximum. Quoi.
Vous êtes combien de gauchers sur le top 100? Tout à l'heure, tu disais que c'était une vraie force parce que vous n'êtes pas nombreux.
Je sais pas vraiment, j'ai pas fait le compte. Je pense pas qu'on soit plus de 20. Je dirais qu'on est entre 10 et 15.
D'accord. Bon, j'essaierai de trouver l'info précise. Et ce qui m'a fait marrer, c'est quand tu disais que quand tu regardes le tableau, 8 fois sur 10, tu dis putain, le mec est plus fort que moi, je vais me faire découper. Est-ce que en sortant 2-3 joueurs comme ça, spontanément, tu peux me dire ce que tu ressens, par exemple, si tu regardes le tableau et que tu vois qu'au premier tour, tu tapes Fonini? Tu te dis quoi?
Fonini, si je le joue, ce que je me dis, si je me mets en condition comme si je devais le jouer dans une heure, comme si on était en tournoi.
Ouais.
La première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut que je fasse un match plein, qu'il faut que je me concentre à jouer tous les points parce que lui, je sais que mentalement, il aura des hauts et des bas, il peut sortir du match à tout moment.
Ouais.
Du coup, faut que j'essaie de me concentrer sur moi-même. J'essaie de pas pas trop me focaliser s'il pète les plombs, s'il commence à râler auprès de l'arbitre, s'il s'énerve. Je sais que ça, de toute façon, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et c'est pas parce qu'il perd ses moyens qu'il jette sa raquette partout qu'il va mal jouer. Bah, c'est comme Benoît Paire. C'est des mecs qui, tu sais pas pourquoi, ils peuvent être à bout de nerfs. Tu as l'impression qu'ils vont complètement balancer le match. Et puis, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe. Et d'une seconde à l'autre, ils se remettent à jouer super bien. Et puis, voilà, ils ont une envie de gagner le match qui est énorme. Et du coup, voilà, ça devient des matchs super compliqués.
Ouais.
Du coup, ouais. Fabio, je me dis, il faut faire un match plein et puis il faut pas jouer en cadence parce que lui, c'est une mobilette déjà physiquement. Il est partout, il est super rapide. Et puis, si je mets de la cadence, lui, il va aimer. Du coup, je vais essayer au maximum de jouer à deux à l'heure et puis de temps en temps varier les vitesses.
Si tu prends Tsitsipas, tu te dis quoi?
Si tu passes, faut que j'essaie de le mettre en difficulté juste après son service.
Ok.
Parce que c'est un rouleau compresseur, hein. Il joue vite, il a un jeu super propre, et puis constamment, voilà, il agresse son adversaire, il agresse, et du coup, ouais, faut essayer de le prendre à son jeu et de pas le laisser se mettre en place, quoi. Après, Titi Pass, il joue tellement bien que je me dis, si aujourd'hui je sers mal, c'est impossible, quoi.
Ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'on
Non, ça compte.
pourrait...
Titi Pass, c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus, quoi. Il y a lui, il y a
Team,
Tim
ouais.
qui joue super bien.
VRF.
J'ai joué récemment Sinner, je l'ai trouvé très très fort.
C'est hyper lourd, non, Sinner, ce qu'il envoie. Ça, c'est comment tu t'es senti en face?
Sinner, c'est impressionnant, c'est parce que moi, avec mon jeu, il y a plein de balles où j'ai l'impression que, voilà, même si je fais pas des coups qui sont super rapides, des fois, j'envoie des merdes de l'autre côté du filet. Je me dis, vas-y, débarrasse-toi. Amuse-toi avec ça, puis on va voir, quoi.
Ok.
Du coup, il y a plein de balles où je me dis, bon, bah, là-dessus, j'ai pas fait grand-chose, mais je crains rien. Et contre Sinner, c'est étonnant, sur des balles super basses, rapides ou lentes, il arrive toujours à remettre de la vitesse. Moi, il y a peu de joueurs contre qui j'ai eu l'impression de toujours recevoir je recevais des pavés à gauche, à droite, tout le temps sur n'importe quel type de balle.
Ouais.
Après, même sur mon service extérieur, qui est plutôt ma force d'habitude, lui, il arrive à faire des appuis ouverts, il se déplace super bien, il sert bien, il a un service qui va continuer à progresser avec les années, mais il a déjà une base super solide. Voilà, quand tu frappes bien la balle, que tu te déplaces bien et que tu sers bien, tu as déjà pratiquement voilà, 80% du boulot, quoi.
Tu le vois devenir numéro un, Yannick?
Numéro 1, je sais pas, mais il sera dans les 10, ça c'est sûr, tôt ou tard. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais s'il monte pas dans les 10, je comprends pas grand-chose, quoi, parce qu'il a tout, il a le tennis, il a le comportement, il a le staff autour de lui. Honnêtement, il a tout pour être monstrueux. Voilà, en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment un mec bien, donc voilà, je lui souhaite le meilleur et le plus rapidement possible.
Et toi, Adrian, qu'est-ce qui te drive encore? Qu'est-ce que tu rêves encore d'accomplir sur le circuit?
Je pense qu'en termes de classement, les 10, voire les 15 premiers mondiaux, c'est inatteignable. J'ai l'impression que ces joueurs-là, ils ont un petit truc en plus. Voilà, moi, je suis face à eux, j'ai l'impression qu'ils voient la balle un petit peu plus vite que moi, qu'ils se déplacent mieux, qu'ils ont un petit peu plus de tennis. Après, entre 15 et 20, il y a de la place, je pense. Du
Okay.
coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai souvent répété à mes entraîneurs. J'ai l'impression que si je rentre pas dans les 20, j'aurais quelque part un peu raté ma carrière. C'est un peu extrême comme truc, mais je suis souvent un peu radical comme ça dans mes manières de penser. Et ouais, j'aimerais bien regagner quelques tournois parce que voilà, j'en ai gagné que un pour l'instant. J'ai fait quelques finales, dont certaines finales que j'aurais vraiment pas dû perdre. Et voilà, j'espère au moins sortir avec 4-5 titres et puis éventuellement rentrer dans les 20 premiers.
C'est ça qui te fait lever le matin aujourd'hui pour continuer de sillonner le circuit, de refaire tes valises toutes les semaines?
Non, pas forcément. Moi, j'adore le tennis. Je suis vraiment je suis un passionné de tennis, j'adore ça, j'adore le jeu, l'aspect mental, l'aspect physique, je trouve ça super intéressant et j'apprends des choses tous les jours, j'ai l'impression. Du coup, je trouve ça vraiment cool et puis voilà, je suis un sportif dans l'âme, du coup, tous les matins, me lever pour aller courir ou aller à la salle de muscu, c'est vraiment un plaisir, du coup, voilà, j'ai essayé de continuer ça pour le maximum de temps, mais puis le fait de voyager, c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment la phobie de l'avion, je détestais ça.
Ok.
Et puis, même si c'est toujours super désagréable pour moi de prendre l'avion, je commence à apprécier un petit peu plus le fait de voyager. Et puis, voilà, au fur et à mesure des années, maintenant, les mecs, je les connais depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Et voilà, le fait d'être au quotidien avec des potes dont tu te sens vraiment proche, c'est aussi quelque chose de super agréable. Du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression de prendre du plaisir tous les jours pendant l'année. Et voilà, c'est un sport assez cool, quoi. Tu t'es bien payé pour voyager et vivre des moments assez agréables. Voilà, pourquoi pas continuer.
Tu prends le temps un peu de voir les merveilles qu'il y a dans les villes dans lesquelles tu te déplaces?
Ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment, le temps de voyager. Enfin, de voyager. On n'a pas le temps de visiter vraiment tout ce qu'on aimerait visiter. Le timing il est toujours assez short, mais ça nous arrive sur quelques tournées où vraiment on est obligé de rester sur place, comme en Australie ou voire quand on est aux États-Unis, d'avoir 4-5 jours off entre deux tournois. Du coup, voilà, on prend un peu le temps de visiter pour certains. Et moi, c'est quelque chose que j'aime, tu vois, d'aller prendre l'air, d'aller marcher un petit peu et voir un petit ce qui se passe autour de moi. Du coup, ouais, j'essaie de faire ça dès que j'ai un peu de temps libre. Et cette situation-là avec le coronavirus où on est obligé de rester dans la chambre d'hôtel tout le temps, c'est vraiment
horrible. Qui
me pèse un petit peu parce que déjà, voilà, voyager dans ces conditions, c'est pas marrant. Et puis, ouais, être dans la chambre d'hôtel, c'est pas dingue.
Tu m'étonnes. À quoi ressemble ton intersaison actuellement? Ça ressemble à quoi une journée type du lever au coucher avec toi, Adrien?
Ça se lève souvent avec un céleri.
Avec un quoi, t'as dit?
On essaie de faire la vidange un petit peu de bon matin.
Ah ouais, jus vert, dès le matin.
Un petit peu de yoga, un peu d'étirement.
Ok. Ça, tu le fais tout seul ou tu suis un truc?
Non, j'ai commencé par des vidéos YouTube.
Ok.
J'ai un pote qui est prof de yoga qui m'avait donné deux, trois vidéos à regarder. Du coup… C'est quelque chose auquel j'ai pris goût. Donc voilà, maintenant j'ai une petite routine. J'aime pas trop faire exactement ce qu'on me dit. Donc c'est vrai que regarder une vidéo, quand on me parle d'étirement de respiration, je préfère faire mon truc à mon rythme.
Ouais.
Du coup, je fais ça. Derrière, j'essaie de m'alimenter un petit peu. Et puis derrière, je pars à l'entraînement. En ce moment, c'est un peu particulier parce que j'ai des petits problèmes au talon. Je ne peux pas faire exactement ce que j'aimerais faire. Mais une journée type en pré-saison, ce sera 2h, 2h30 de tennis le matin.
Ouais.
J'essaie d'enchaîner avec un cardio sur tapis avant d'aller déjeuner. Derrière, voilà, un bon déjeuner, je me repose un peu et j'enchaîne par une séance de muscu.
Okay.
Et je finis la journée par voilà, un peu d'étirement, un peu de soins si les personnes adéquates pour me faire des soins. Et puis ça recommence le lendemain. J'essaie de faire à peu près 2 ou 3 jours de boulot pour une journée de repos.
D'accord.
Ou alors généralement le rythme c'est 2 jours et demi. Je fais lundi, mardi, mercredi matin et je prends l'après-midi off. Et puis ça repart jeudi, vendredi, samedi matin et je prends samedi après-midi off.
Et le dimanche, tu y retournes?
Et le dimanche, j'y retourne, à moins qu'il y ait un petit souci ou…
L'anniversaire de ta grand-mère.
Ou que dans la… Non, même ça, j'y pense pas. Honnêtement, je reste focus pendant la pré-saison. Je me permets pas trop de petites sorties, de trucs. Franchement, je suis concentré sur l'entraînement. Après, il y a toujours une autre journée où tu en as un peu marre, t'as marre de voir des balles, ta raquette, elle te sort par les yeux. Du coup, voilà, tu vas prendre l'air, tu fais une sortie Là, j'ai la chance d'être en Floride. Tu fais une sortie bateau, tu t'aères un peu et puis voilà, tu te ressources avant de repartir. Parce que non, quand tu te mets en mode machine et que tu t'arrêtes pas au bout d'un moment, tu deviens con, quoi. Même, tu penses à ce que tu manges, tu penses à tes étirements, à tes entraînements. Dès qu'il y a un entraînement où ça se passe mal, tu es de mauvaise humeur. Ça, je l'ai vécu. J'essaie de prendre un petit peu de recul maintenant.
Ouais.
Et puis, non, j'essaie de profiter un peu plus et d'y aller avec un peu plus de relâchement.
Tu pars sur quoi? 4 semaines pleines?
Ouais, quatre entre. Je fais trois très grosses semaines. Généralement, il y a une petite semaine de mise en route où c'est un peu moins dur. Et puis après, selon le calendrier, ça peut s'étendre à une ou deux semaines de plus, quoi.
Et t'as mis, tu dois être affûté de ouf entre le terrain, le cardio et la muscu. Et derrière, sur le circuit, tu continues un peu la muscu, le renfo toute l'année?
Ouais, ça se voit pas trop, mais je passe beaucoup de temps en salle.
D'accord.
Moi, déjà parce que j'aime bien ça.
Ouais.
Et puis, ouais, j'ai eu des petits problèmes de hanche dans le passé. Je sais très bien que ouais, je suis arrivé à un âge, même si je suis pas vieux, j'arrive à un âge où si tu t'entretiens pas quotidiennement, les blessures, elles arrivent tôt ou tard. Du coup, voilà, je fais ça pas forcément pour devenir musclé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour éviter les blessures. Et voilà, le meilleur moyen d'éviter les blessures, c'est d'être renforcé au maximum sur tout ça.
Et de boire des jus de céleri, je peux te dire que ça fait la diff, mon gars.
Alors, le jus de céleri, c'est vraiment pas mal parce que quand tu commences la journée par un verre d'Oasis et des Pépitos et qu'au bout de 10 minutes, tu vas envoyer une praline énorme. C'est pas ouf. Non, j'essaie de faire attention. Je me dis, ouais, c'est pas très compliqué. En tout cas, pendant l'année, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Donc, voilà, quand je suis chez moi ou voilà, quand j'ai une base comme ici où je peux passer quelques semaines, j'essaie vraiment de faire attention à mon alimentation parce que, voilà, c'est pas dur. Et puis, ça peut vraiment, ça peut m'aider sur la suite.
À Miami, là, de chez toi, je vois 2, 3 stories Instagram passer, t'as une vue de ouf, non? Tu peux nous montrer rapidement?
Non, bah là, déjà là aujourd'hui, il fait vraiment pas beau.
S'en fout.
Et là, je suis pas vraiment. Putain, tu vas me prendre. Là, c'est.
Là, c'est bien rangé.
Attends. Comment on fait? Tac.
Ah, yes.
Là, on voit pas bien. Là, je suis dans le salon.
Ok.
Mais bon, il y a les bagages qui sont pas encore défaits.
Ça, c'est
Il y a les
stylé, la
raquettes de
vue.
partout.
La vue est cool. T'es à quel étage?
Là, je suis au 27e.
Et t'as donc maintenant t'es résident aux US?
Non, aux États-Unis, je suis pas résident. Là, je passe juste quelques temps pour ma pré-saison.
D'accord.
Moi, j'habite à Malte. C'est là-bas où je passe le plus clair de mon temps, où je vais m'entraîner.
Ok.
Je suis encore là-bas, juste avant l'US Open, pour faire un gros bloc d'entraînement. Là, à Miami, c'est vraiment. Je viens souvent pour faire l'hiver parce que il y a beaucoup de joueurs ici en Floride. Il y a un climat qui est vraiment super agréable. Il y a les salles de gym qui sont ouvertes tout le temps. Ouais, même en période de coronavirus, là, je vais à la gym tous les jours. Tu ne te prends pas la tête, tout est ouvert.
Génial.
Et, en tout cas, pour cette année, c'était vraiment la solution la plus facile pour moi, sachant qu'il y a. Et en plus, un tournoi à Delray Beach dans quoi, 3 semaines. Du coup, je suis déjà sur place. C'était vraiment
Nickel.
l'idéal pour moi.
Nickel. Tu vas taper où et avec qui là pendant l'intersaison?
Là, pour l'instant, je peux pas encore faire des matchs d'entraînement. Je suis encore un petit peu bloqué avec mon problème de pied.
Ouais.
Du coup, je vais 3 fois par semaine à Delray Beach, justement, pour m'entraîner avec Sébastien Grosjean.
D'accord.
Et il y a 3 autres journées où, en fait, il y a un ami de longue date qui vient, Horacio Rearte, qui vient taper avec moi. Et il a un jeune de 16 ans qui joue vraiment, 16 ou 17 ans, un truc comme ça, 16 ou 17 ans, un jeune américain qui joue vraiment très bien. Du coup, voilà, je fais ça. Mais dans le coin, Il y a Tommy Paul, il y a Opelka, Tiafoe, il y a vraiment tous les jeunes américains qui sont là. Du coup, si j'ai besoin de partenaires, je crois qu'il y a, j'ai vu Christian Garin l'autre jour. Il y a Del Potro aussi, mais Del Potro en ce moment,
Il en est où?
il est dans le dur là. Il a toujours un problème au genou. Ah, le poignet s'est résolu, mais il a le genou qui est pas terrible. Et du coup, non, il peut toujours rien faire lui.
Et Seb, tu tapes avec Seb ou il est juste sur le bord du terrain?
Seb, il tape, mais il a vraiment, vraiment une zone très limitée à 1 mètre carré.
Ah oui, t'as intérêt d'être précis, quoi. Ok.
Non, Seb, s'il touche la balle, il est monstrueux. Encore, le problème, c'est que non, il joue plus. Il a pas le physique pour malheureusement pour jouer avec moi. Là, il tape sur place. Donc ça passe dans l'axe. Mais dès que tu fais un entraînement où tu fais un petit peu de gauche-droite, il tient pas, mais par contre, il a encore une putain de main, quoi. Dès que la balle arrive sur lui ou qu'il a la volée,
C'est bon
il
ça.
impressionne, un peu tout le monde, tous les jeunes qui sont autour, hein, à chaque fois. Bon, s'il tente une rétro, il se loupe rarement, quoi.
Énorme. On a pas mal parlé de ta carrière. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert le tennis? Est-ce que tu as ressenti au tout début?
J'ai très peu de souvenirs de mes sensations au début. Je sais que ouais, mon père qui était prof de tennis, j'ai 3 grands frères qui jouaient déjà au tennis, du coup j'ai été amené sur les cours, hein, naturellement. Et voilà, j'ai continué. Ouais, j'ai la chance d'être dans une famille où ils aimaient vraiment le tennis. Mon père adore ça. Il nous a pas poussé à jouer, mais il nous a toujours encouragés. Voilà, j'ai jamais eu quelconque pression. Du coup, voilà, on allait sur les cours pour taper la balle, et puis c'était toujours un peu ludique, et voilà, ça nous a toujours plu. Moi et mon frère aîné, Morgan, voilà, on a continué un petit peu plus sérieusement dans cette voie-là, mais ouais, ça a toujours été sympa. Donc, ouais, mes premiers pas sur un court, ça a dû être aux alentours de 4-5 ans. Voilà. Je dépassais pas le filet, j'avais les mini raquettes, mais voilà, c'est et j'ai encore une ou deux vidéos, je pense, à la maison où je dois avoir à peu près cet âge-là.
Et à partir de quel âge tu te souviens avoir eu envie de devenir pro?
Je sais pas vraiment, hein, je sais pas, mais de souvenir, je sais pas, quand je vois les tournois, genre les petits as à 13-14 ans. J'avais déjà en tête de devenir joueur pro. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour moi, c'était pratiquement une évidence, quoi. Je savais que j'allais l'être, quoi. Même si, voilà, quand je regarde les images d'époque, tu me vois jouer, tu te dis pas forcément ce mec-là, il va être très fort, mais ouais, je sais pas, dans ma tête, ouais, j'avais cette vision des choses, et puis c'est venu par la suite, donc tant mieux, mais. Ouais, je dirais qu'à partir de cet âge-là, j'avais vraiment pour objectif de devenir joueur pro.
Tu rêvais de quoi, toi? C'était quoi ton summum à cette époque-là?
À cet
Roland?
âge-là,
Non?
non, quand tu joues au tennis en France, ouais, tu regardes la télé, il y a la Coupe Davis et Roland-Garros. C'est les deux seuls événements que tu vois à la télé, et c'est ce qui te fait rêver un petit peu. Quand tu arrives le vendredi, semaine de Coupe Davis à 13h, et que tu sais
T'es comme un dingue.
qu'il y a France-Belgique, tu vas te taper 3-4 heures d'Arnaud Clément enchaîné de Sébastien Grosjean, ah, t'es content, quoi. Et puis pareil pour Roland-Garros, en plus j'avais la chance d'y aller tous les ans, j'y allais une ou deux fois, et c'est vrai quand tu rentres à la maison après une journée à Roland-Garros, t'as qu'une envie, c'est d'aller sur le court. Ouais, t'as envie de t'habiller comme un la journée. T'es tombé sur le cours 4 sur un Roumain qui mettait sa casquette à l'envers. Toi, t'arrives, tu mets la casquette à l'envers, t'es limité. Non, c'est Garros qui m'a toujours fait rêver, je pense. Après, je me suis pas forcément vu le gagner, mais faire des gros matchs à Roland-Garros avec le public qui s'emballe, c'est vraiment. Moi, j'étais fan d'aller sur les petits courts, le court 2, le court 7 à l'époque, qui étaient vraiment des cours mythiques. Et quand tu vois les ambiances que ça peut amener, t'as qu'une envie, c'est d'y être un jour et de vivre ça. Du coup, ouais, je pense que c'est ça qui m'a vraiment plu et c'est ça qui, j'espère, continuer à faire rêver les jeunes qui vont voir les matchs à Roland-Garros.
Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à... Tu as été au mieux 22e joueur mondial.
Non classé 32. 32-15-2. 15-2-15-1. 15-1-4-6. Et après, ça a été un peu plus laborieux. 4-6-3-6. 3-6-2-6. 2-6-1-6 à l'intermédiaire, peut-être. Ou 1-6 en fin d'année, je ne sais pas. Après, 0. Et après, j'ai commencé à grandir et à jouer un peu mieux au tennis. J'ai fait 0, moins 30, moins 30 promo première, je crois.
Et
c'est vrai que j'ai grandi tard. Et du coup, quand t'es sur les tournois.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, adulte en France et que t'es tout petit, la progression est un petit peu plus lente.
Ton tout premier point ATP, est-ce que tu as ressenti? Tu te souviens où c'était?
Mon premier point ATP, ça a été mon premier tournoi ATP en fait.
Ah ouais, efficace.
Ouais, premier futur de ma vie à La Roche-sur-Yon. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le premier tour de qualif, je joue contre mon frère.
Oh putain, sympa.
Donc voilà, c'est dur. On ne s'est pas joué souvent, on a dû jouer deux ou trois fois. Et voilà, on s'entend tellement bien que voilà, on n'avait pas envie qu'il y ait aucun conflit lié au match. Du coup, voilà, on se mettait toujours d'accord sur qui allait gagner avant le match. Et là, ce jour-là, il m'a dit bon, bah, je te laisse gagner. Moi, j'ai fait un tour. Moi, c'était mon premier futur. Lui, ça devait être son deuxième.
Okay.
Il avait fait un futur la semaine d'avant, je crois, ou un truc comme ça. Il m'a dit, bon, vas-y, il m'a laissé gagner. Derrière, je crois que je me suis qualifié contre un joueur qui devait avoir un point. C'était pas très relevé. Et puis après, j'ai battu un Croate qui devait être aux alentours de la 500e place. Et derrière, j'ai battu un joueur français, Olivier Charouin, je sais pas, qui n'était pas super bien classé à l'époque. Et j'ai perdu en quart de finale. Voilà. 4 points ATP dans la besace dès le premier tournoi, c'était super bien parce que quand tu commences à voyager et que tu n'as pas de points, tu ne sais jamais si tu vas rentrer dans les tableaux. Donc, tu peux potentiellement faire le voyage pour rien. Et là, au moins, ça me permettait d'être sûr de rentrer dans les tableaux de qualif et de pouvoir jouer. Donc, c'était vraiment une belle opération.
Quand tu étais dans les jeunes, tu n'étais pas du tout dans les meilleurs du coup? Tu n'étais pas à la Fédé dans ce giron-là?
J'étais dans les meilleurs jusqu'à 14 ans.
Ah d'accord, ok.
Et après, ça a commencé à décliner un petit peu, jouer moins bien. Comme je le disais, j'étais pas très grand. Et, non, c'était une progression assez lente. Moi, ça ne m'affolait pas du tout. Et voilà, pour moi... Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, j'allais monter au classement. C'était pas très important de pas gagner de match ou de pas monter au classement. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, même mon père qui m'entraînait à l'époque, voilà, c'était pas très important. Et puis jusqu'à 16 ans, j'étais, on va dire, dans les 10-15 meilleurs français, mais j'étais pas dans les tout meilleur, je pense qu'il y avait au moins dans 10-15, j'exagère un peu, j'étais dans les 10 sûrs, mais ouais, il y avait 3, 4, 5 joueurs en France qui jouaient mieux que moi.
Ouais.
Et après, Voilà, quand j'ai fait ma croissance et que j'ai commencé un petit peu à progresser vers 17-18 ans, je suis redevenu parmi les tout meilleurs en France.
Ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, tu as dit que c'était mentalement, c'était ancré en toi, tu te voyais devenir genre professionnel et pas autre chose. Pourquoi toi, tu as réussi, Adrian, et pas ton frère ou ta sœur?
Ça, c'est ça, j'en ai aucune idée. Ça, je suis pas à leur place. Je
Ouais,
peux
mais.
pas m'exprimer. Voilà, bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est des caractères vachement différents. C'est des mentalités différentes. Moi, je suis vraiment passionné par ça. Mon frère, c'est quelqu'un qui aime pas forcément voyager, qui, voilà, il avait une autre manière de voir les choses peut-être aussi. Et puis, voilà, il a eu un super niveau, mais c'est pas passé forcément comme pour beaucoup de joueurs aussi, hein, on se rend pas compte, mais il y a énormément de joueurs qui essaient de devenir joueur professionnel, de rentrer dans les 100 premiers et puis qui n'y arrivent pas, qui stagnent avec quelques points ATP et qui finalement font pas leur trou. Après, ma sœur, c'est quelque chose qui était complètement différent. Je pense pas qu'elle c'était une grande, grande passionnée de tennis. Elle aimait, c'était une matcheuse, elle aimait la compétition. Maintenant, si tu sortais du cadre compète, le fait d'aller s'entraîner tous les jours, que ce soit pas forcément marrant l'entraînement, c'était pas quelque chose qui lui plaisait forcément. Du coup, voilà, elle est partie sur des études, c'était autre chose. Hein. Moi, c'était clairement pas là où je voulais aller. Les études, c'était pas forcément mon truc. Du coup, voilà, je savais qu'il fallait que je fasse mon trou dans le tennis et ça m'a donné voilà, une petite motivation encore un peu supérieure.
Tu serais devenu entraîneur si tu n'avais pas réussi à être sur le circuit?
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout là où. Je sais même pas ce que je vais faire après ma carrière. J'en ai encore aucune idée. Du coup,
Ok.
non, pour moi, je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je ferais si je devenais pas joueur pro. Voilà, assez rapidement, voilà, à 17-18 ans, quand j'ai commencé les futurs, j'avais encore un bon niveau chez les juniors. Je crois que quand j'étais junior deuxième année, j'avais déjà passé un tour dans les qualifs à Roland.
D'accord.
Enfin, je me rendais bien compte du niveau. Je ne me rendais pas compte forcément de mon niveau, mais pour moi, j'avais l'impression que tout le monde n'était pas super fort, quoi.
OK.
Même quand je suis arrivé sur les tournois ATP, finalement, j'étais assez étonné. Je pensais que ça jouait beaucoup mieux que ça. Et même aujourd'hui, je n'ai pas l'impression voilà, que les joueurs jouent si bien que ça. Par contre, moi, voilà, je me fais un peu de mal parce que j'ai l'impression d'être nul des fois. Même assez souvent, j'ai l'impression de voir très rapidement et très facilement ce qu'il faut faire,
Ouais.
mais d'être moi-même assez limité dans mes options et de pas réussir à faire ce qu'il faudrait. Et c'est pour ça que je me frustre vachement sur le court. Et un joueur un peu qui me fait penser à ça, c'est Corentin Moutet qui. Voilà, qui supporte pas de rater un coup, qui s'énerve vachement sur le terrain, mais j'ai l'impression que un peu comme moi, il voit assez rapidement ce qu'il faut faire, il est assez rapide, et finalement pas réussir à mettre ça en place et à faire ce qu'il faudrait faire, voilà, ça le rend complètement fou. Après, voilà, on n'arrête pas de dire qu'il est nerveux, qu'il a un mauvais tempérament, mais je pense qu'il est quelque part, lui, il est un peu surdoué, il a une telle vision, un tel œil, il voit les choses en avance que voilà, rater des coups pour lui, ça lui semble si simple que ça le rend complètement fou. Et c'est ce qui me vient en tête assez souvent, moi aussi, quoi.
Ce qui est ouf, c'est que tu dises qu'aujourd'hui, tu as l'impression que le niveau parfois n'est pas si monstrueux, alors qu'on entend que ça s'est considérablement resserré dans les 10 dernières années, que les joueurs ont de plus en plus de staff, sont de plus en plus complets, tu vois, le staff médical, prépa physique, même mental, nutrition, tout ça. Toi, tu es là, à la cool, moi, je trouve qu'il y a encore de la place. C'est quand même dingue, quoi.
Ouais, après, j'ai peut-être l'image d'un mec qui est pas sérieux tout ça, mais non, j'ai un staff avec moi et je fais vraiment les choses de manière professionnelle, hein. Moi je sais pas vraiment l'image que je dégage, mais non, je fais les choses vraiment sérieusement, peut-être un petit peu trop sérieusement des fois, je prends pas assez de recul et j'essaie de travailler là-dessus, mais non, non, je suis à bloc.
Moi, je trouve que tu as l'image d'un mec vraiment cool et détaché de cet environnement un peu star qui fait vraiment, qui trace sa route sans se poser de questions, sans faire gaffe vraiment à ce que les autres pensent. D'ailleurs, je crois qu'il y a une spécificité, c'est que très longtemps, tu as payé tes tenues Nike, c'est ça? Tu n'avais pas forcément de contrat?
J'ai été en contrat avec eux, après ils ont un petit peu resserré pas les budgets, mais le nombre de joueurs qu'ils avaient en contrat. Et ça se limitait au top 30 seulement. Et moi, je faisais pas partie du top 30 à cette époque. Du coup, voilà, plutôt que d'avoir un contrat avec une petite marque pour aller gratter des tenues et un petit peu d'argent, je me suis dit, voilà, je préfère avoir des tenues dans lesquelles je me sens bien. Voilà, j'aime bien être sur le court et bien me sentir dans ma peau. Et puis, de toute façon, les prize money sont telles aujourd'hui que si tu gagnes un match en grand chelem ou deux matchs en grand chelem, ça fait une telle différence au niveau de l'argent que ce que je vais aller gratter avec une petite marque, finalement, ce sera dérisoire par rapport à ce que je peux gagner. Donc, voilà, je privilégie vraiment le fait de bien me sentir dans ma peau et de bien jouer au tennis, plutôt que de voir, voilà, je sais pas, une paire de chaussures qui me fait mal aux pieds et puis de me prendre la tête et puis voilà, de rater un ou deux tournois à cause d'une ampoule et puis derrière, voilà, j'ai un problème au talon et je me dis, putain, est-ce que si j'avais fait les choses un peu plus sérieusement et si j'avais gardé ma paire de Nike, est-ce que ce problème serait survenu? Non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de petits détails. Du coup, voilà, je fais les choses de la manière la plus pro. Voilà, dans ma tête, et puis au moins j'ai pas de regret là-dessus.
Aujourd'hui,
Mais le fait de m'acheter 15 tenues et 10 paires de chaussures, non, ça va pas trop m'atteindre.
Et justement, aujourd'hui, tu es avec une marque un peu décalée, Hydrogène. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Pourquoi t'être engagé avec eux?
J'aime chez enfin, déjà, j'aimais bien le style qu'ils avaient.
Ouais.
Il y avait Fonini qui jouait avec cette marque depuis quelques années et ça m'arrivait souvent de me faire la remarque que j'aimais bien ce qu'il portait. Après, Fonini, c'est un mec assez classe qui porte bien les tenues. Donc, des fois, ce qui va bien à Fonini, toi, ça te va comme un cul. Hein, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est comme il y a Feliciano qui est chez Hydrogène en ce moment. Et voilà, quand Feliciano met un short rose, lui, ça lui va bien. Toi, tu mets ton pantalon rose, t'as vraiment l'air con, quoi. T'oses pas sortir chez toi. C'est comme ça. Non, j'aimais bien le style. Et puis, c'est vraiment des gens sympas avec qui j'aime bosser,
OK.
quoi. Vraiment, moi, je porte pas mal d'importance aux relations humaines. Et c'est vrai que je me verrais pas travailler avec une marque, voilà, avec qui j'estime que les gens sont pas cool. Avec qui je m'entends pas forcément bien, et là j'ai vraiment une bonne relation avec eux et ça me fait plaisir de porter leur marque. Et voilà, j'ai signé 3 ans, je crois que j'en suis à ma deuxième année de contrat. Et voilà, je vais encore mettre du fluo
Et
et
de la
des
tête de
tenues
mort.
bariolées l'année prochaine, quoi.
Pour ceux qui nous écoutent, les milliers de personnes en ligne, c'est le créateur d'Hydrogène et Alberto Brichi, je ne sais plus. Il est tatoué de la tête aux pieds. Tu l'as rencontré un peu, c'est un gars cool ou...
Je l'ai rencontré. En fait, c'était assez étonnant. Je l'avais contacté à l'époque. Il m'avait dit, ouais, écoute, Adrian, ça me plairait de travailler avec toi. Pour l'instant, j'ai pas de budget parce qu'à l'époque, Fabio a récolté 99% du budget.
Salopard.
Ouais, putain, le bougre, il prenait la caisse à chaque fois. Du coup,
Tu
c'était un
sais
peu compliqué.
l'enveloppe annuelle à peu près de d'un Fabio sur le textile?
Non, 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 je sais pas vraiment. Je pense que c'était pas mal. Après, c'est mérité, mais je sais pas exactement les chiffres.
C'est plus de 200 000 annuels, non?
Je sais pas. Je sais qu'en quand Fabio est parti, il a réussi à récupérer Berdic, Lopez et Manarino.
C'est bon.
Fabio, il est parti chez Armani. Du coup, ouais, c'est vrai que ça a laissé un peu d'espace. Mais non, Alberto, il m'a dit je t'aime bien, j'aime bien la manière dont tu joues. J'aimerais bien te rencontrer. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de te prendre. Ensuite, je l'ai rencontré pendant la Coupe Davis. On avait joué contre l'Italie à Gênes. Et là, c'est vrai qu'on avait discuté 10-15 minutes. Et en fait, moi, j'avais envoyé mon agent à l'époque vers lui parce que je lui ai dit, écoute, j'ai discuté avec lui, il est intéressé pour m'avoir. Du coup, voilà, essaie de voir ce qu'ils peuvent proposer. Mon agent, il m'a dit, bon, écoute, ils sont jamais revenus vers moi, ils sont pas intéressés. Je dis, ok, c'est bizarre, mais bon. Et en fait, quand je l'avais rencontré pendant la Coupe Davis, il m'a dit, ça me fait chier de bosser avec les agents, j'ai envie de bosser directement avec le joueur. Donc, moi, mon offre, moi, j'ai toujours envie de travailler avec toi. Du coup, voilà, si tu as envie de bosser avec nous, je t'envoie une proposition. Et puis, ça s'était fait comme ça en 4 okay.
Ça, c'est bon, ça. On va être l'humain, quoi. Et ouais. tu disais que les prize money étaient assez importants. Aujourd'hui, tu as gagné 7 700 000 dollars de prize. Pour le moment sur le circuit, je voyais que les quelques dernières années, bon, à part 2020 qui est un peu tronqué, t'es un peu plus d'un million de prize par an, ce qui est une coquette somme. Et le choix de Malte, c'est clairement fiscal parce que tu sais que la carrière est courte et que t'as pas envie de trop te faire saigner par les impôts, ou c'était quoi le parti pris?
Alors le parti pris, c'est que moi je suis originaire de là-bas, le nom Manarino, ça vient de Malte.
Ok.
Voilà, j'avais des racines là-bas. Et puis, ça faisait quelques années que je passais pratiquement plus de temps en France, quoi. J'étais tout le temps. Je passe 45 semaines de l'année à l'étranger. Et voilà, j'avais envie de partir, d'aller dans un endroit où il faisait beau, où je pouvais m'entraîner, qui n'était pas trop loin de la France. Ouais. Et où éventuellement ma famille pourrait voyager pour voilà, prendre des vacances de temps en temps. C'était partir vivre aux États-Unis à l'année, j'avais pas envie de ça parce que c'était un peu loin. Partir à Dubaï, c'était un peu loin aussi, j'avais pas forcément envie. Voilà, je trouve que Malte, c'est un bon compromis, j'aime bien être là-bas, j'aime bien le climat, j'aime bien les gens, la vie est tranquille. Ça, voilà, c'est assez paisible, c'est un peu à mon image. Du coup, moi, j'aime bien ça. Et puis, voilà, ça me permet d'avoir un petit coin à moi tranquille. Et puis, voilà, après, les prize money, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on, en tant que joueur de tennis, on se fait souvent raser à la source, hein. Quand tu gagnes 1 million aux États-Unis, ils te prennent 30% tout de suite. Mmh. Et quand tu joues en Californie ou à New York, ils te prennent des taxes d'État en plus. Du coup, je crois en Californie, ça peut monter jusqu'à en tout. Tu peux, c'est 37,5% d'impôts. Donc, c'est vrai que les prize money ont l'air énormes à chaque fois, mais c'est pas forcément ce qu'on touche. Et puis après, on a un staff, hein, quand je pars avec mon prépa physique, mon kiné ou mon entraîneur de tennis, c'est que tu paies leur billet d'avion, leur hôtel, leur nourriture, leur salaire, bah, il ne te reste pas tant que ça.
Tu sais combien te coûte une saison en moyenne?
J'ai pas fait les comptes exacts, mais prendre un coach, ça te coûte au moins 200 000.
Sur annuel?
Ouais.
Oh la vache.
Du coup, si tu veux prendre un coach plus un kiné ou alors un coach plus un entraîneur physique, les chiffres montent super, super vite.
Ouais.
On n'est pas comme en NBA, on n'est pas comme certains sports où les salaires sont énormes et puis où eux, voilà, ils ont la chance d'avoir aucun frais lié au staff. Mmh. Ouais, moi, quand je passe du temps aux États-Unis, que là, je vois la free agency en NBA et que je vois les salaires
Qui
qui
tombe.
sont en jeu. Je crois
Monstrueux.
qu'il y a Rudy Gobert qui a signé hier pour un. Il a signé une extension de 5 ans pour un, combien? 205 millions. Ah, c'est pas comme le tennis, hein. Mais bon, non, on n'est pas malheureux non plus. Et c'est vrai que. Voilà, moi je suis super content de faire ce sport et je me sens vachement privilégié. Du coup, voilà, je suis content de me lever tous les matins pour aller taper des balles.
Les tout meilleurs, enfin peut-être une vingtaine de joueurs ou même plus, ont des minimums garantis dans les tournois. Je crois que Roger et Rafa, ou même Djoko, négocient plus d'1 million sur certains tournois pour se déplacer. Est-ce que toi, tu t'en as aussi ou pas?
Non, non, je n'ai jamais eu. Non, je crois que j'en ai jamais eu. Peut-être sur un challenger ou deux, mais c'était des garanties qui venaient de personnes en dehors du tournoi. Du coup, c'était différent. Mais je pense que les garanties, tu peux commencer à les négocier quand tu es dans les 20 premiers, 20-25 premiers. Après, ça dépend des tournois. Il y a des 250, par exemple, qui sont assez faibles, qui sont vraiment à la recherche de joueurs. Et dans ce cas-là, tu peux négocier quelque chose quand tu es dans les 30 premiers.
Ouais.
Mais non, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand tu es très bien classé, bah, les différences sont énormes parce que tu gagnes beaucoup plus de prize money, tu gagnes beaucoup plus en contrat publicitaire et tu peux gagner beaucoup plus avec les garanties en tournoi. Alors, forcément, la différence entre un joueur qui est 15e et 30e, elle paraît pas si énorme, mais finalement, dans le monde du tennis, ça fait vraiment une marge énorme.
C'est quel est ton le match qui t'a laissé le plus gros souvenir en termes de frissons sur le court?
En termes de frissons, je sais pas vraiment. Émotionnellement, je pense que c'était à Wimbledon il y a 2 ou 3 ans quand j'ai gagné contre Medvedev en 5-7. C'était un tournoi où j'avais un huitième de finale à défendre. J'avais beaucoup de pression au niveau des points. C'était un match, voilà, on se joue au troisième tour. On avait tous les deux voilà, une belle carte à jouer. C'était pour jouer Roger en huitième. Voilà, il y a eu un match en 5-7 où je commence mal. Finalement, je gagne les 2 premiers sets. J'avais le match bien en main. Il était en train de dégoupiller. Il commençait à se décaler complètement comme moi au service pour faire n'importe quoi. Et finalement, il a commencé à jouer d'une manière tellement chaotique que le niveau de jeu, il avait vraiment baissé. Et puis finalement, il avait gagné le troisième, le quatrième. Il avait eu le break au cinquième. Peut-être eu le break même.
Ouais.
3-1, balle de 4-1. Et puis finalement, j'étais revenu, j'avais gagné 6-3.
Elle est là.
Et là, c'est vrai que à la fin du match, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Je me souviens, j'étais tombé à genoux sur le court, ce qui m'arrive rarement à la suite d'une victoire. Et c'est vrai que ça avait été vraiment une satisfaction de dingue. Et puis sur place, il y avait mon entraîneur à l'époque, Jean-Christophe Forel, il y avait mon kiné, Philippe Pétral. Et voilà, partager des moments comme ça avec eux, ça avait été juste génial. C'est vrai que moi, c'est aussi ce que j'adore dans ce sport et dans ce métier, c'est de pouvoir partager des moments hyper sympas avec des gens que tu apprécies, quoi.
Jouer Roger après, dans cet écrin incroyable de Wimbledon, tu peux nous raconter ce que c'est? Sur
Roger,
Central?
j'ai joué 2 fois Wimbledon, une fois, c'était allé vraiment trop vite. J'étais jeune, je l'avais joué au deuxième tour et j'étais vraiment pas au niveau. Je m'étais fait rouster, j'avais vraiment pas eu le temps de profiter. Et là, cette année-là, c'est marrant parce que j'avais gagné contre Daniil le vendredi. Je jouais que le lundi parce que le dimanche, ça joue pas à Wimbledon. Du coup, j'avais eu 2 jours pour me préparer. Physiquement, j'étais bien. tennistiquement, je jouais super bien. Et je me souviens, le dimanche après-midi, je suis allé boire un coup avec un pote. On s'assoit à table et il me dit « Alors, tu le vois comment, le match ?» Parce que voilà, ce jour-là, tout le monde m'avait dit que je jouais Roger à l'avance. Hein. Je savais depuis le vendredi que je jouais Roger.
Ouais.
Et là, je lui dis « Honnêtement, là, je commence limite à être un peu stressé parce que je me dis que s'il y a peut-être un jour où je peux battre Roger, c'est aujourd'hui parce que… » Enfin, c'était demain, en l'occurrence. Parce que physiquement, je suis au top.
Ouais.
Au niveau de mon tennis, je n'ai jamais été aussi bon. Du coup, s'il y a un jour où j'ai peut-être une chance de le battre, c'est demain. Parce que je serai rarement sur gazon à Wimbledon aussi prêt physiquement et tennistiquement. Et le lendemain, je rentre sur le court, je prends 6-0 d'entrée.
Bam
6-0. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas moi qui passe à côté de mon set. Hein. C'est Roger. Ouais, il est connu pour vraiment commencer ses matchs à fond. Et franchement, je prends 6-0. Je pouvais rien faire. Je prenais des coups gagnants à gauche, à droite. Il me prenait à la gorge. Et puis finalement, premier jeu du deuxième, je sauve 0-40, je crois. Et j'arrive à sauver mon service. Et là, je commence à souffler parce que même le public commençait à rigoler un petit peu. J'arrivais pas à gagner de jeu, quoi. Et dans le deuxième, j'ai eu une petite croquette à un moment. Je crois que j'ai eu un 4-3, 15-30 ou 15-40 ou un petit truc comme ça. Et finalement, je prends 3-7. Mais c'est vrai qu'à un ou deux points près, j'aurais peut-être pu, prendre un 7 et peut-être le faire un tout petit peu douter, quoi. Mais non, Roger, c'est toujours particulier. Et puis à Wimbledon, tu rentres en même temps que ton adversaire sur le court, sur le central. Donc, des fois, sur les gros courts, ils annoncent ton nom. Bon, il y a deux, trois applaudissements. Et puis après, il y a la star qui arrive derrière. Et là, ça fait du bruit. Mais à Wimbledon, c'est particulier. Tu rentres sur le court. Les gens, déjà, bon, ils savent jamais quand tu vas vraiment rentrer. Et là, il y a la personne du club qui t'accompagne, qui rentre devant toi, et puis derrière, tu rentres sur le court, et là, ça crie.
Et clairement, ouais, dis-moi.
Je l'avais fait en night session à l'US Open une fois, Roger, un troisième tour le samedi soir. Et là, il y a le public qui s'était tapé une purge avant, qui s'était tapé Wozniacki, Georgi, il y avait eu un match en 3-7 interminable qui était pas ouf. Et derrière, Roger en deuxième partie de soirée. Et là, là, c'était vraiment un souvenir de dingue où je rentre sur le court. Je pense qu'il était pratiquement plein, le central. Et je rentre sur le court. Bon, il y a 3-4 applaudissements. Tout le monde se demande qui je suis. Et derrière, Roger Federer, là, tu as l'impression que le sol tremble, quoi. Il rentre sur le court, il y a un bruit, les gens hurlent. Et honnêtement, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de tennis, quoi. L'entrée sur le Arthur Ashe avec Roger, c'était… Là, tu commences l'échauffement, là, tu te dis « Putain, merde, faut pas que je fasse trop de fautes. » Et non, les 3-4 premiers coups, déjà, quand tu mets deux coups droits dedans, le premier revers, il rentre, tu es soulagé. Tu montes rapidement la volée. Faut pas que l'échauffement, ça tarde trop, quoi.
Ok.
Derrière, tu commences le match et tu vois ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand tu rentres, quand tu n'as pas trop l'expérience, tu rentres sur un terrain comme ça contre une légende, tu as vite fait de te foirer dès l'échauffement. Et là, ça te met un coup de stress de dingue, quoi.
Tu as vécu des trucs avec Roger, Rafa ou Djoko en dehors du court, un peu?
Non, rien de… Mais… Rien de particulier, je ne les ai pas. Enfin, je suis pas comme Richard, Gaël, qui connaît. Eux, ils connaissent Djoko et Rafa depuis les juniors. Non, moi, je suis la génération. Enfin, la génération. J'ai juste 2 ans de décalage, mais moi, c'est plus Del Potro, Cilic, Nishikori. J'ai grandi avec eux.
C'est qui ton meilleur pote sur le circuit, le gars qui te fait le plus marrer?
Mon meilleur, je pense que la personne avec qui j'apprécie le plus être sur le circuit, c'est peut-être il y a Fabrice Martin et Hugo Nice. C'est des joueurs de double.
Ouais.
Mais voilà, c'est des personnes avec qui j'aime vraiment passer du temps. Je suis content d'être sur les mêmes tons qu'eux. Voilà, le soir, je me retrouve dans la chambre avec eux. Si un soir, il y a besoin d'aller boire un coup, se vider la tête, ouais, ils seront toujours partants si tu as besoin de quelque chose. Même là, en pré-saison, quand on n'est pas les uns avec les autres, c'est avec eux que j'ai le plus de contact. Du coup, c'est vraiment avec eux que je passe la plupart de mon temps sur le circuit. Après, entre Français, on s'entend tous super bien, quoi. J'étais en train de parler sur WhatsApp avec Gaël hier. Non, on a tous une super entente entre Français.
Je crois que c'est Hugo d'ailleurs qui nous avait filé ton numéro après l'épisode qu'on avait fait ensemble. Je sais plus. Comment tu gères les meufs sur le circuit?
Bah moi, je suis en couple. Du coup,
Ah, très bien.
y a pas de meuf à gérer. Mais non, tout le monde gère ça de manière différente, je pense, pour ceux qui sont célibataires. Mais je pense que Hugo est en couple d'ailleurs aussi. Mais non, c'est au cas par cas. Il y a des mecs qui sont vachement beaux gosses. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Il y a des mecs qui, au contraire, ont un peu plus de mal. Non, c'est difficile de parler de ce sujet-là. En tout cas, moi, je suis pas très actif.
Et les mecs qui sont un peu beaux gosses sur le circuit, qui ont des fans, enfin, c'est une légende ou c'est un peu comme un groupe de rock, t'as vraiment des fans un peu prêts à tout?
Je pense que c'est une légende. En tout cas, ça l'était peut-être dans le passé. Mais non, j'ai l'impression que le tennis, ça devient beaucoup plus pro.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'ils font tellement tous attention à leur hygiène de vie, à leurs entraînements, aux matchs. Voilà, et puis après, c'est leur vie privée, j'ai pas envie
Et ta copine,
d'interférer là-dedans. Je la regarderai. Même si j'en avais, je la regarderai aucun dossier.
voyage un peu avec toi du coup?
Ça lui arrive ouais, quand je vais aux États-Unis.
Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse galère vécue peut-être sur le circuit secondaire, à l'autre bout du monde, ou j'en sais rien, un truc vraiment ubuesque?
Alors, ça, c'est une question qui revient souvent, mais moi, il m'est rarement arrivé des histoires de dingue. Il y a toujours des galères quand tu voyages sur des tournois un peu secondaires, où l'organisation est un peu moins bonne, mais moi, j'ai jamais eu de grosses, grosses galères. Il y a eu, je crois qu'on a tous vécu quelque chose d'assez étrange quand on a voyagé en Ouzbékistan, pour ceux qui l'ont fait.
Ok.
Je sais que Lucas avait été en cellule. C'était une sorte de, pas une garde à vue, mais il avait été bloqué dans une cellule à l'aéroport. Il n'avait pas le droit de sortir. Moi, il m'est arrivé la même chose. J'avais pas fait mon visa à temps. Finalement, voilà, il y avait eu des jours fériés sur place qui n'avaient pas permis de me délivrer mon visa à temps. Du coup, je devais jouer un challenger à Tashkent. Et j'avais fait un vol Paris-Francfort, Francfort-Tashkent. Et en fait, en arrivant à Francfort, je savais que je n'avais pas encore mon visa. Et j'espérais l'avoir pendant l'escale, en fait.
Ok.
Et j'étais avec Eric Prodon à l'époque. Et on arrive à Francfort et pas de visa. Du coup, pas le droit d'enregistrer tes bagages, pas le droit d'embarquer dans l'avion si tu n'as pas ton visa. Parce qu'en fait, tu dois avoir le certificat comme quoi tu auras ton visa sur place. Parce qu'en fait, le visa, tu l'obtiens directement à l'aéroport à Tashkent. Il y a une espèce de petite cabane à 2 balles. Et en fait, j'arrive à l'aéroport, pas de visa, rien. Donc moi, je vais au comptoir ouzbékistanais pour en fait annuler mon deuxième vol. Et je suis dans la file d'attente et là, je suis en train de parler au téléphone en anglais. Il y a un mec qui écoute la conversation derrière moi et qui me dit putain, mais t'as un problème de visa. Moi, je travaille au gouvernement là-bas à Tashkent.
Ouais.
Si tu veux, je peux essayer de t'aider.
Putain, beau gosse.
Je lui dis bah ouais, si tu peux. J'étais un peu paniqué à ce moment-là. Donc voilà, je lui dis ouais, si tu peux, appelle pour moi. Le mec appelle. 2 minutes après, il me dit c'est bon, t'as ton visa. Le vol avait fermé à ce moment-là. Et en fait, il avait demandé au comptoir Uzbekistan Airlines de laisser le comptoir d'enregistrement ouvert au cas où. Et il m'a dit, c'est bon, t'as ton visa, ils t'attendent pour enregistrer tes bagages, bah, dépêche-toi. Donc, je fonce, j'enregistre mes bagages, mais bon, moi, j'ai aucun papier officiel comme quoi j'aurai mon visa, quoi.
Ouais.
Donc là, j'embarque sur le vol, un vol un peu dégueulasse. Je crois que tu pars en fin de journée, tu arrives à 3 heures du mat là-bas. Donc, on arrive à Tashkent à 3 heures du mat. Et forcément, je fais la queue au comptoir pour avoir mon visa et pas de visa. Le mec me dit non, pas de visa. Il n'y a rien, il n'y a pas ton nom, il n'y a rien. Ni pour moi, ni pour mon entraîneur.
Merde.
Du coup, voilà, forcément, pareil, tu as les jambes qui se coupent. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu te dis, bon, bah, je suis sur le prochain vol pour Paris, de toute façon. Enfin, pour l'Allemagne. Et puis, on attend une heure, deux heures. Moi, j'avais pas de réseau, j'avais pas de 4G, il y avait pas de Wi-Fi à l'époque dans l'aéroport. Donc, moi, j'attends que tous les mecs passent les uns après les autres. Il y a tout mon vol qui passe devant moi. Et 5h30 du mat, je retourne à la petite cabane, toujours rien. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a du réseau qui apparaît sur mon téléphone. J'arrive à accéder à mes mails et là, j'ai un mail comme quoi le visa était accepté. Je le montre au mec. Forcément, le mec, à 5h30 du mat, il me dit non, c'est pas bon, ça, je valide pas.
What?
Et je lui dis, mais regardez, il y a un numéro de téléphone et tout ça. Il fait semblant d'aller appeler, mais bon, tu te doutes bien qu'à 5h30 du mat, il n'a appelé personne. Il revient et il me dit, bon, bah, c'est bon pour le visa. Par contre, c'est pas 50$, c'est 250$.
Il voulait un backchiche, non?
Bah, ouais, du coup, moi, je suis là-bas, j'ai aucun contact et je sais pas quoi faire. Il est 5h30 du mat, je lui ai filé deux fois 250$ et puis on est passé, quoi.
Ah ouais.
Bon, c'est le genre de truc qui est pas très grave, pas très important, mais ça arrive souvent quand tu voyages dans les petits pays comme ça sur les challengers.
Ah, putain. J'ai un petit challenge pour toi, Adrian. C'est une série de questions assez rapides où on va essayer de répondre entre.
Je vais devoir partir à l'entraînement dans peu de temps.
Eh ben, c'est parfait, comme ça on a presque fini.
Ouais.
On essaye de répondre entre trois mots et trois phrases, max, et de pas trop réfléchir. T'es prêt?
Ouais.
Ta plus grande qualité, selon tes proches?
Ça, j'arriverais même pas à répondre. Hein.
Ok.
Certaines personnes qui vont apprécier ma patience, d'autres qui vont dire que je suis pas du tout patient. Je suis très contradictoire en plus, moi-même, dans ma personnalité. Du coup, difficile à dire.
Plus gros défaut?
Je m'agace assez vite. Alors que sur certaines choses, je suis super patient. Non, c'est difficile à dire. Je peux, selon les personnes, en fait, il y en a qui vont me trouver des défauts et des qualités différentes. Là-dessus, je pourrais pas trop répondre.
Un jour où tu as été injouable?
Injouable, bah, c'est vachement difficile de dire ça. Injouable, c'est prétentieux. Il y a une fois à Tokyo, quand j'ai joué Marine Cilic, je suis en demi-finale. Là, je fais un match où je dois gagner le premier set, je le gagne pas, finalement je gagne le deuxième. Et là, je me souviens que je m'assois sur ma chaise entre le deuxième et le troisième set et je savais qu'il n'y a plus rien qui allait m'échapper, quoi. J'étais rentré dans une espèce de concentration, je me disais, je peux plus rater une balle. À partir de maintenant, de toute façon, je serai partout. Et j'avais gagné 6-0 le troisième set.
Putain, énorme.
Mais c'est vrai que y a des moments où tu. T'as tellement envie de gagner que t'as cette concentration en plus qui est mêlée un peu avec des bonnes sensations qui font que voilà, cette fameuse zone dont tout le monde parle, là, tu rentres dedans, quoi.
Ton coup le plus naturel?
Le revers.
Le coup que t'as le plus fait évoluer?
Le coup droit.
La préparation mentale, t'es pour, t'es contre, tu la pratiques ou pas?
Je suis... Ah, ça, c'est compliqué, ça. Je pense que je suis pour. Je la pratique pas à proprement parler, mais ça m'arrive d'avoir des discussions avec mes entraîneurs pour me rassurer et pour faire part de mes doutes. Je pense que ça peut être un gros atout. Maintenant, je pense qu'il faut trouver la bonne personne. C'est comme un entraîneur, en fait. Je sais pas s'il y a des bons entraîneurs, des mauvais entraîneurs. Je pense qu'il y a des personnes avec qui ça matche bien et des personnes avec qui ça matche pas forcément bien. Après, peut-être qu'un bon entraîneur, ce sera une personne qui arrivera à bien matcher avec beaucoup de joueurs, contrairement à un entraîneur qui aura un peu de succès avec un joueur et qui va se trouver avec 15 joueurs aussi. Mais c'est pareil pour les coachs mentaux. J'en ai eu quelques-uns, mais ça n'a pas forcément fonctionné avec eux. Là, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Teddy Riner où il y avait sa préparatrice mentale ou psychologue, je ne sais pas quand, qui parlait de lui et qui parlait de leur préparation. Elle avait l'air hyper intéressante et hyper forte.
Trop bien.
Donc, c'est vrai que quand tu vois des gens comme ça, tu te dis, putain, il y a peut-être quelque chose à approfondir de ce côté-là. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas, mais je pense que ça peut être une bonne chose.
En trois mots ou en trois phrases, la synthèse du coaching de Yannick Noah en Coupe Davis, selon toi ?
À l'instinct.
Sur 10, l'émotion que tu as vécue, toi, en Coupe Davis, tu la situerais où ?
À 8,5. 8,5, 9. C'est pas mon meilleur souvenir de tennis, mais ça a été vraiment une émotion. Surtout un soulagement, parce que quand tu joues en Coupe Davis comme ça et que tu as tes potes au bord du court,
ouais,
tu n'as surtout pas envie de les décevoir. Et surtout, plus tu t'habitues à ça, je pense, plus tu arrives à vraiment aller chercher le meilleur de toi-même. Mais là, j'étais vraiment dans une situation où j'avais été appelé à la dernière minute et je n'étais pas forcément censé être là. Et j'avais pas envie de me cagouler, quoi. J'avais vraiment envie de... Surtout, le premier match était mal passé. Et là, pour les potes et puis pour l'équipe, j'avais vraiment envie de ne pas les décevoir. Et ça avait été vraiment un bon moment.
C'est bon, ça. Roger, Rafa ou Djoko ?
Pourquoi ?
Pour marquer l'histoire.
Je pense que Roger, on se souviendra plus de Roger. Par contre, je pense qu'en termes de palmarès, Djoko sera bien devant.
Ah ouais, on se mouille. On fera un épisode à ce moment-là. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Je pense pas que ce soit un conseil, c'est un ensemble de plein de choses. Je pense que la personne qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est mon entraîneur Erwan Tortuillo qui m'a énormément aidé au niveau du tennis, mais en règle générale, sur plein d'autres choses, même dans la vie de tous les jours, voilà, c'est une personne avec qui j'ai confiance à fond et qui m'aide vraiment sur tous les aspects.
Si tu avais un jeune justement de 12 ans face à toi qui rêve d'y arriver, qu'est-ce que tu essaierais de lui transmettre ?
Pour l'aider, je pense qu'il faut qu'il garde la passion du jeu, en fait, parce que sinon il va se lasser bien trop vite. Après, il y a des champions qui arrivent à faire une carrière énorme en disant qu'ils n'aiment pas ce sport, qu'ils n'aiment pas le tennis. Mais pour moi, en tout cas, je pense que s'il garde la passion du jeu et le côté ludique du tennis, voilà, il n'arrivera jamais à se lasser et il prendra du plaisir tout le temps.
Ton tournoi préféré ?
Wimbledon.
L'hôtel le plus ouf dans lequel tu es séjourné ?
En Chine, il y a souvent des hôtels de très bonne qualité. Genre, il y a la chaîne Saint-Régis, à Zhuhai ou à Chengdu, c'est très très solide. Là, on était au Ritz-Carlton à Nur-Sultan, c'était vraiment monstrueux. Après, ça se joue sur des petits détails, mais c'est vraiment des palaces. Ces trucs.
Le film que tu pourrais voir 700 fois, s'il le fallait ?
Il y en a des films que j'ai regardé 700 fois, mais...
La soupe aux choux ?
Non, c'est les trucs à la con. Non, je n'ai pas qui me reviennent. Là aux États-Unis, le film Hangover, il passe tous les deux jours. Quoi.
Ah ouais.
Titanic passe tous les jours aussi, ou Home Alone, Maman j'ai raté l'avion.
Ouais.
Donc il y a des films que tu regardes, et puis une fois que tu es devant, tu dis bon, bah, allez, je vais continuer. C'est comme Gladiator. Quoi.
Ouais.
Ça t'aspire. Quoi. C'est la télé, tu te dis il y a un moment là, dans 5 minutes, que j'aime bien, hein, et tu continues, tu regardes.
T'as pas beaucoup, à priori la lecture c'est pas ton grand truc, mais est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais aux auditeurs ?
Moi j'ai lu tous les livres sur Mike Horn.
Ok.
J'ai vraiment bien aimé. Moi j'aime bien les biographies ou les autobiographies, je suis vachement là-dedans.
Je me souviens
ça m'a vraiment passionné. J'ai lu ça vraiment pour moi qui aime vraiment lire, j'ai vraiment pas eu de problème là-dessus, quoi.
Je me souviens, il y a très longtemps, quand tu étais blessé au genou, je crois, à l'époque de Facebook, il n'y avait pas encore Instagram. On avait parlé un peu sur Messenger et tu me disais, putain, je suis au fond, je suis blessé, machin. Et je t'avais dit, regarde le livre de Agassi, Open. C'était peut-être 6 mois après sa sortie, 1 an. Et tu m'avais dit, mais mec, mais je m'en bats les steaks d'Agassi, moi, je veux guérir. Et je t'avais dit, ouais, mais regarde, mentalement, le mec s'est blessé, il est revenu, son livre est fou. Et tu m'avais dit, mais mec, mais tu comprends pas, putain. Tu l'as lu ou pas,
Ah,
finalement, sa biographie?
non, j'ai toujours pas lu.
Ah,
On m'a dit de lire le livre de Brad Gilbert aussi.
Winning
Winning
Ugly.
Ugly. Ouais. Ça, je pense que ça va faire partie de mes prochaines. Bon, il y a forcément le livre de Gilles Simon à lire dans les semaines qui viennent, mais non, il y a deux, trois trucs là à lire pour la tournée australienne en tout cas.
Un petit mot sur Tennis Légende, une question à Johan, le fondateur. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses?
Bah moi j'aime bien, moi c'est vraiment un truc que je regarde. Je suis tout le temps un peu sur Instagram, j'ai des vidéos qui apparaissent, même là les podcasts, j'en ai écouté quelques-uns. Et moi j'adore le job que vous faites, quoi. C'est vraiment sympa, ça me tient. Voilà. Dès qu'il y a un petit truc sympa qui sort de l'ordinaire, voilà, j'ai l'occasion de pouvoir le voir. Et puis même maintenant j'ai la chance de découvrir des personnes un petit peu mieux grâce au podcast et c'est vraiment sympa.
Trop cool. Est-ce que justement, pour faire vivre ce podcast, il y aurait une personne que tu nous recommandes et que tu pourrais nous aider à avoir?
Vous aider à voir, non, parce que, parce que quoi qu'il arrive, les mecs, ils en font qu'à leur tête. Hein. Je peux toujours envoyer un message, mais ça fonctionnera pas, hein, je vous le dis d'avance. Mais je vais réfléchir à ça. J'ai pas encore l'idée, mais quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, ouais. Je vais essayer de vous trouver ça.
Est-ce que Seb Grosjean, tu pourrais lui en toucher un mot?
Ouais, je peux essayer de lui en toucher un mot. Mais Seb, il a vraiment, vraiment plein de trucs. Il est débordé tout le temps, mais ouais, je lui en parle maintenant.
Trop bien. Un big, big merci, Adrien. Vraiment, bonne saison.
Pas de
Cool.
problème.
Qu'est-ce qu'on peut te
Bon.
souhaiter, Adrien, de plus fou?
Ouais, j'espère qu'on va, en règle générale, qu'on va retrouver une vie normale assez rapidement et puis qu'on puisse profiter de tout, hein, comme avant, quoi.
Moi, je sais ce qu'on peut te souhaiter, c'est de taper le top 20.
Ouais, j'espère. Mais ça va bien.
Allez
Allez.
là, allez, bah, bon entraînement. Un big merci franchement d'avoir pris le temps, c'était
Super.
super cool. À bientôt.
Problème. Allez, ciao.
Ciao, ciao. Merci Adrian pour ce moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier. Tu peux faire une story aussi sur Instagram en taguant Tennis Légende, Adrian et moi-même d'ailleurs. Ça nous aide à faire connaître notre contenu. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode dans le commentaire avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire, ça me motive comme jamais à continuer. Pense à récupérer ton bonus dans les notes de l'épisode. Je t'ai regroupé les 10 clés d'Adrian Manarino pour gagner tes matchs en jouant relâché sur un court de tennis. C'est des méthodes qu'Adrian utilise à chacun de ses propres matchs. C'est le premier lien dans la description et je suis sûr que ça va libérer ton jeu. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin au bouche à oreille, notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur toutes les plateformes. Ils finiront bien par l'écouter. C'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée. Donc, pour avoir des invités qui te font kiffer aussi et pour nous donner ce coup de pouce supplémentaire. Merci à Titoff qui a laissé le dernier commentaire. Il nous dit énorme plaisir de redécouvrir ou découvrir les champions, mais aussi les personnages de l'ombre du tennis. Et puis tous ses conseils sur la stat, on redécouvre le tennis. Merci, merci, merci à toi Titoff. Vraiment, merci de prendre le temps chaque semaine, voilà, de laisser des avis sympas sur les plateformes. Ça m'aide comme jamais. Merci beaucoup. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur ce projet de podcast qui me tient à cœur. Et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui y contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et pars avance. Un immense merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, fonce parce que ça fait une différence énorme pour continuer ce projet. T'as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou en tapant Tennis Légende Podcast Tipeee, T-I-P et 3-E dans Google. Encore un grand merci. Enfin, notre 10e masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian,
qui coache entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial, est disponible. T'as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire. Spécifique au tennis, tu peux l'emmener absolument partout. C'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono dans mon salon ou dans ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et résultats obtenus. Le TRX offre un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et donc de se blesser, tout en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en gainant. C'est juste incroyable. Paul Quétin, qui est le prépa physique à la Fédé depuis 30 ans environ et qui est passé sur le podcast, épisode 31 il me semble, me l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers. Adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef. Avec au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien, vraiment. Et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens personnellement beaucoup plus tonique. En plus, il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer quelques bonnes premières si vous jouez tous les deux au tennis. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, cela vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner, deuxième lien dans la description de l'épisode. Et pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la 10e et les 9 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie, avec une simple demande par mail. Tu n'as donc plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement cette année. Si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Je réponds à tout le monde avec un immense plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes, il n'y a pas à dire. Merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.